la fin de la vie d'Abraham. Et à la fin de ses jours, il avait à cœur de trouver une femme pour son fils Isaac, une femme de son peuple, une femme de foi. Et son serviteur a été envoyé, il a trouvé Rebecca. Donc Isaac et Rebecca se sont mariés. Par la suite, Abraham est décédé, il est allé rejoindre ses ancêtres. Isaac et Rebecca ont eu deux fils jumeaux, comme nous l'avons vu. L'aîné de quelques secondes ou quelques minutes là, est Ésaü, qui a été suivi de près par Jacob, qui lui tenait le talon. D'ailleurs, Jacob signifie « saisir le talon », ou dans un sens figuré, signifie « supplanter », ou « surpasser », »,« prendre la place ». Et probablement que Jacob l'a su, c'est ce qu'on en déduit, parce que plus tard, il a usé de ruse, mais il a réussi à acquérir le droit d'aînesse au détriment d'Ésaü. Et nous avons vu la semaine passée que par la suite, Isaac a réussi à s'installer dans le pays qui n'est pas le sien, il est en étranger. Il a dû déménager à plusieurs endroits parce qu'il a vécu des conflits avec les gens locaux, avec Abimélec. Mais il a réussi finalement à s'installer, à faire la paix et à connaître la prospérité, à connaître la bénédiction de Dieu. Il a pu vivre de longues années avec sa famille, avec sa femme Rebecca et ses deux enfants Ésaü et Jacob. Et on a vu que Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est présenté à Isaac. Non seulement il était le Dieu d'Abraham, son père, il est devenu le Dieu d'Isaac. Il s'est révélé à lui et Isaac l'a invoqué et a fait de lui son Dieu. On arrive maintenant à la fin de la vie d'Isaac. Donc, on n'a pas vu beaucoup de détails sur la vie d'Isaac. Mais on arrive à la fin de ses jours. Je vous invite à tourner dans Genèse 27, verset 1. Courbons nos têtes un instant avant de lire. Seigneur Dieu, nous savons que c'est seulement par ton Saint-Esprit que nous pouvons comprendre ta parole et ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui, en 2015. Alors, touche notre cœur par ton Saint-Esprit. Rends-nous attentifs à ta parole, rends-nous humbles, au nom de Jésus. Amen. Alors, lisons chapitre 27, versets 1 à 45, presque tout le chapitre. Donc, Genèse 27, 1. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils, il lui répondit, « Me voici. » Isaac reprit, « Je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois, ton arc, et va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un régal comme je l'aime et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. » Rebecca écoutait, tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et pour le rapporter. Alors Rebecca dit à son fils Jacob, « Voilà ce que j'ai entendu. Ton père parlait à ton frère Ésaü et disait, « Apporte-moi du gibier et fais-moi un régal ou un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, fais ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux et j'en ferai pour ton père un régal comme il l'aime. Tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Mais Jacob répondit à sa mère Rebecca, « Oui, mais mon frère Ésaü est velu, il est poilu, tandis que moi je ne le suis pas. Et peut-être que mon père me touchera, me tâtera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un trompeur. Et je ferai alors venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Et sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me prendre les chevreaux. » Et il alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un régal comme son père l'aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à sa portée dans la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit de la peau des chevreaux ses mains, ainsi que son cou, qui était glabre, sans poil. Puis elle mit le régal et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de son fils Jacob. Celui-ci vint vers son père et dit, « Mon père! » Isaac dit, « Me voici, mais qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses toi-même. » Isaac dit à son fils, « Mais comme tu as vite fait d'en trouver, mon fils! » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier vers moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es bien mon fils Ésaü. » Alors Jacob s'approcha de son père Isaac, qui tâta, et dit, « la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme celles de son frère Ésaü. Et il le bénit. Il dit, « C'est bien toi, mon fils Ésaü? » Il répondit, « Oui. » Et Isaac dit, « Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que je te bénisse moi-même. » Et Jacob le servit, et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors son père Isaac lui dit, « Approche donc et donne-moi un baiser, mon fils. » Il s'approcha et lui donna un baiser, et Isaac sentit l'odeur des vêtements. Puis il le bénit en ces termes, « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient asservis, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. » Et Isaac finissait de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que son frère Ésaü revint de la chasse. Il fit aussi un régal qu'il porta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses toi-même. » Et son père Isaac lui dit, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis ton fils, premier-né, Ésaü. » Et Isaac fut saisi d'un grand trouble, d'un trouble extrême. Et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit ces paroles, les paroles de son père, il poussa un grand cri extrêmement amer. Il dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, mon père. » Isaac répondit, « Ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il prend ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? » Isaac répondit à Ésaü, « Mais voilà, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin nouveau. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « Mais tu as donc que cette seule bénédiction, mon père? Moi aussi, bénis-moi, mon père. » Et Ésaü se mit à sangloter. Et son père Isaac lui répondit, « Voici, ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père approchent et je tuerai mon frère Jacob. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Et elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici que ton frère Ésaü veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, va te réfugier chez mon frère Laban à Haran. Tu resteras auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit calmée. Et quand la colère de ton frère se sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux le même jour? » Le passage commence par un point de vue sur Isaac, qui était rendu âgé, très vieux, au point où il était aveugle. C'est une bénédiction aujourd'hui de pouvoir avoir des opérations pour les cataractes ou d'autres, mais à l'époque, à la fin de la vie, il y a plusieurs exemples dans la Bible où on voit les personnes âgées sont devenues aveugles, au point qu'ils ne voyaient plus. Et ils s'attendaient à mourir d'un instant à l'autre. Lorsqu'il dit « Je ne connais pas le jour de ma mort », c'est une manière de dire « Ça peut m'arriver n'importe quand. La mort peut frapper. Et je ne voudrais pas mourir avant de t'avoir béni. » Isaac a été un homme de foi. Et comme Abraham, son père, on a vu qu'Isaac a accepté d'habiter dans ce pays en tant qu'étranger, vivant sous des tentes, vivant comme un nomade, sans propriété, toujours dans le champ chez quelqu'un ou étant menacé d'être repoussé, dans l'insécurité. Il a accepté de vivre là parce que c'était la terre promise. Promise à son père, à lui, à sa descendance. Il a obéi au Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur lui a dit « Ne va pas te réfugier en Égypte, reste ici. » Il avait la foi. C'est ce que Hébreux 11 nous dit dans le Nouveau Testament, Hébreux 11, 8 et 9. « C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. » Bon, c'est aussi par la foi qu'Isaac est resté dans ce pays. Et son désir de donner sa bénédiction avant de mourir est aussi une démonstration de sa foi. Dans Hébreux 11, le texte continue en disant « C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. » Donc, il croyait vraiment que Dieu pouvait répondre à sa prière, à son intercession, et que ce qu'il allait donner comme bénédiction à ses enfants, Dieu allait le faire. Il croyait même qu'il bénissait selon la volonté de Dieu. Il avait la foi dans son Dieu. Il l'avait vu, d'ailleurs, Isaac, il avait vu agir l'Éternel dans sa vie. Il avait vu tout le bien qu'il lui avait fait et comment il était intervenu. Nous l'avons vu la semaine passée lorsqu'il a construit un puits et que le jour où il a fait la paix, il a décidé de s'installer là, faire confiance à Dieu. Le même jour, un de ses serviteurs est venu lui dire « On a trouvé de l'eau dans le puits. » Et il a vu Dieu agir dans sa vie. Et il avait la foi, et même lorsque Ésaü revient et que Jacob doit lui avouer qu'il a béni quelqu'un d'autre, il dit « Je l'ai béni et aussi sera-t-il béni. » Il avait la ferme conviction que l'imposteur allait être béni. Il avait la conviction que Dieu allait répondre à sa prière. Mais le fait qu'il avait la foi, le fait qu'Isaac était un homme de foi, ne fait pas de lui un modèle parfait. Malheureusement, ce n'est pas une garantie que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, était selon la volonté de Dieu. On peut, malheureusement, même si on a la foi en Dieu, agir parfois de manière qui n'est pas conforme à cette foi. On peut avoir mis notre confiance en Dieu et tout à coup, à cause du train-train quotidien, on oublie notre Sauveur et on agit comme s'il n'était pas notre Sauveur, notre Seigneur. On peut avoir la foi en Jésus-Christ, qui nous a sauvés pour l'éternité, et agir parfois comme s'il n'était pas notre Seigneur. On peut oublier que Dieu a fait de lui le roi de l'univers, qu'il règne. Et la Bible ici ne se gêne pas pour dresser un portrait assez négatif d'Isaac. C'est une autre preuve aussi, on peut voir que c'est vraiment la parole de Dieu. Si c'était un texte inventé par les hommes, ils auraient tout fait pour embellir des personnages aussi importants. On parle des patriarches, les fondateurs, les ancêtres du peuple d'Israël. Mais on voit autant leur bon côté que leur mauvais. On voit ici Isaac sous un mauvais jour. Il n'a malheureusement pas été un bon modèle pour ses fils. Et au moment où ce qu'il veut bénir, celui qu'il voulait absolument bénir, c'était Ésaü. Et seulement Ésaü. C'est triste de voir cela. Il dit « Avant de mourir, je veux te bénir, mon fils. » On ne voit pas une indication où Isaac voulait bénir ses deux fils. Il appelle Ésaü son fils pour le bénir, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. Et le contenu de sa bénédiction qu'il a donné par erreur à Jacob, le contenu de sa bénédiction montre vraiment aussi où était son cœur. C'était bien, c'était bon, mais on voit un contenu qui est vraiment pour la vie terrestre, où il demande la bénédiction pour la prospérité sur la terre, où il demande le blé et le vin nouveau en abondance, il demande le pouvoir pour que les autres soient soumis et se prosternent, que Dieu donne de bonnes récoltes par la rosée du ciel. Donc, c'est vraiment pour la vie sur la terre. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qui était, selon lui, le plus important. Et ça montre son cœur. Parce qu'on va voir au chapitre suivant, au chapitre 28, peut-être vous pouvez tourner au verset 3 et 4. Nous le verrons la semaine prochaine. Mais lorsque Isaac a finalement compris là, que c'était par Jacob que la descendance devait passer, il l'a béni selon la bénédiction de Dieu, selon ce que Dieu avait béni Abraham. Verset 28, verset 3, « Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et te rende fécond, et te multiplie, afin que tu deviennes une foule de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme immigrant et que Dieu a donné à Abraham. » Donc, si on résume la bénédiction de Dieu pour Abraham et ses descendants, c'était une descendance nombreuse, un peuple nombreux et la terre promise. Donc, de prendre possession de Canaan. Mais la bénédiction qu'Isaac avait vraiment à cœur de donner à Ésaü était vraiment plus pour la vie à court terme, cette vie terrestre. Il n'y avait pas une pensée de l'éternité à ce moment-là ou de l'avenir. Et le texte nous montre d'ailleurs que c'est ce qui influençait Isaac dans sa vie. C'est ce qui déterminait ses valeurs. Et c'est pour cela qu'il préférait Ésaü. On a vu il y a deux semaines qu'il préférait Ésaü parce que c'était un chasseur qui pouvait bénéficier des ressources qui étaient chez lui. C'était un homme qui pouvait aller dans les champs, donc qui pouvait apprécier la récolte, la prospérité, les signes de richesse et de puissance. Il aimait Ésaü pour cela, parce qu'il partageait les mêmes valeurs que lui. Et ça l'a conduit à faire du favoritisme et même de la discrimination envers Jacob. Il dit qu'Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob, lui, était un homme tranquille qui restait volontiers sous les tentes. Et Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait un goût pour le gibier. En plus, il l'a pris par son estomac. Là. Isaac aimait les bons mets, les plaisirs. C'est normal d'aimer les plaisirs de la vie, mais pour lui, ça l'a pris une importance très grande, au point où il associe de manger un bon mets avec la bénédiction solennelle. Qu'est-ce qui l'empêchait de bénir Ésaü tout de suite, là? Et non, il voulait vraiment qu'Ésaü fasse ce qui symbolisait pour lui là, la réussite, la valeur de la famille, là, le bon mets qui représente un gibier qui a été chassé et bien apprêté avant qu'il le bénisse. Mais c'est par là, c'est ce qui a provoqué son erreur. Est-ce que pendant toutes ces années-là, Isaac s'était laissé guider par sa gourmandise ou ses plaisirs de la chair? Le texte ne le dit pas, mais on peut supposer que oui. En tout cas, le lecteur est laissé libre de conclure cela, comme si c'était une valeur familiale forte pour Isaac. Et sa préférence pour Ésaü le contrôlait jusqu'à le pousser à tolérer le péché chez son fils Ésaü. Il a même toléré le mal dans la vie d'Ésaü. On a vu la semaine passée, à la fin du chapitre 26, verset 34, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hittite, et Basmat, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Isaac savait très bien que ce que son fils faisait, c'était pas bon. D'ailleurs, Isaac lui-même avait vu à quel point son père, Abraham, avait tenu cela comme indispensable qu'il marie une fille de son peuple, une femme qui avait la foi. Et lui-même n'a pas transmis cette valeur-là à son fils. Et son fils est parti aller marier des païennes qui n'avaient pas foi en Dieu. Et ça a causé une grande amertume dans le cœur d'Isaac. Mais le texte semble nous indiquer qu'il ne l'a même pas dit à Ésaü. Parce qu'on apprend au chapitre suivant, qu'on va revoir la semaine prochaine, qu'Ésaü ne le savait pas. Parce que plus tard, Isaac et Rebecca envoient Jacob prendre une femme. de son peuple dans l'Est. Parce qu'il dit, on ne veut pas que tu prennes une femme du pays ici. Là, Ésaü se rend compte, oh, ça veut-tu dire que mes parents n'aiment pas les femmes que j'ai prises? C'est comme s'il vient d'allumer, là. Mais comment cette importance-là, cette valeur-là n'avait pas été transmise à Ésaü? C'est carrément un manquement de la part d'Isaac. Ésaü vit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Alors Ésaü se rendit auprès d'Ismaël et il prit pour femme Mahalath, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nébaïoth, en plus de ses autres épouses. Il a comme voulu se racheter. Donc, il ne savait même pas que ça déplaisait à ses parents, l'action qu'il avait prise. Le favoritisme d'Isaac face à Ésaü a toléré le péché dans sa vie, mais a fait en plus en sorte d'alimenter la rivalité entre les deux fils. C'était clairement visible que le père aimait Ésaü. Donc, il pouvait y avoir une inégalité auprès des fils, et c'est sûr que ça a contribué à leur rivalité, à leur querelle. Pourtant, au chapitre 25, on a étudié il y a deux semaines, Dieu avait clairement annoncé que ce serait le fils cadet qui allait prendre le dessus et que le plus vieux serait assujetti au plus jeune, que le droit d'aînesse, dans le fond, revenait de par la volonté divine au plus jeune, à Jacob. Isaac le savait et pourtant, il a fermé les yeux là-dessus. Son préféré, c'était Ésaü. Puis Jacob, voyant cela, il a conclu qu'il devait arracher le droit d'aînesse. Et ici, il est allé jusqu'à vouloir arracher la bénédiction de son père. Il avait conclu que c'était impossible que son père, finalement, l'aime ou respecte la volonté de Dieu. Puis on voit que Jacob est allé jusqu'à utiliser la ruse, la tromperie. Puis cette situation-là a ajouté encore davantage à la rivalité des deux frères, au point où ce que Jacob a dû fuir, il a connu la peur, l'angoisse. Ésaü est sombré dans la colère, dans l'amertume, dans le désir du meurtre. C'est ce qui a déchiré la famille. Éphésiens 6, verset 4, résume bien le devoir d'un père. Et c'est là où Isaac a manqué. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Donc, premièrement, n'irritez pas vos enfants. S'il y a quelque chose qui est irritant pour des enfants, c'est bien le favoritisme, l'injustice, qui est deux poids, deux mesures. Lorsqu'un père favorise l'un, qui est son chouchou, et l'autre, il le rejette, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être plus irritant que cela, là? Et le deuxième point, selon Dieu, élevez-les en les corrigeant, en les avertissant. Les avertir du mauvais chemin pour leur montrer quel est le bon chemin. Et là, clairement, Ésaü n'avait pas été averti. N'a pas été bien élevé. Et Isaac lui-même, en tant que père, a payé très cher cette faute à la fin de sa vie, alors qu'il aurait pu terminer dans le bonheur, sa famille est brisée. Et entre les deux scènes où on voit Isaac, il y a une scène au milieu où la caméra se tourne vers Rebecca, son épouse. Rebecca aussi est une femme de foi. Elle avait la foi en Dieu. On a vu comment elle a accepté de quitter son pays dans l'Est pour épouser celui qu'elle voyait que Dieu avait mis sur son chemin. C'était clair, c'était la volonté de Dieu. Elle est allée par la foi pour épouser cet homme, c'est Isaac, qu'elle ne connaissait pas. Elle est partie de la maison de son père, par la foi. Et quand plus tard elle est devenue enceinte et qu'elle a senti des coups dans son ventre, qu'il lui dit que ses deux fils se heurtaient, son réflexe a été d'aller consulter Dieu. Elle a consulté l'Éternel pour voir qu'est-ce qui se passait. Et Dieu s'est révélé à elle, lui a révélé à elle sa volonté, et son plan pour l'avenir de ses fils. Malheureusement, elle aussi, elle avait du favoritisme, elle préférait Jacob. Le texte ne dit pas pourquoi. Peut-être c'était parce qu'il habitait sous les tentes avec elle, mais peut-être aussi c'était parce qu'elle avait compris que la descendance promise, la bénédiction qui avait été donnée à Abraham, devait passer par Jacob. Le texte ne le dit pas, mais peu importe, on voit qu'elle non plus n'a pas été un modèle parfait dans la vie de ses fils. Son favoritisme, la conduite elle-même au mal. Au chapitre 25, on a vu comment Jacob a usé de ruse, alors que son frère Ésaü était presque mort de faim, selon ses dires. Il a manipulé son frère pour obtenir le droit d'aînesse. Il a utilisé la ruse, la tromperie. Il a manipulé, mais on voit d'où ce qu'il tenait ça. C'est sa mère, ici, dans le chapitre qu'on vient de lire, lui ordonne de faire cela. C'était une autre des valeurs de la famille. C'était probablement pas la première fois qu'il voyait de la tromperie venir du côté de sa mère, ou être utilisée, ou être justifiée même. Peut-être que la tromperie, c'était un mode correct lorsque c'était nécessaire. Que le mensonge était toléré lorsque c'était nécessaire, lorsqu'on croyait que c'était la volonté de Dieu. On peut utiliser le mensonge et la tromperie. Mais ici, elle n'a pas seulement suggéré une tromperie, elle a tout orchestré. Elle lui a dit à Jacob quoi faire, elle l'a guidé dans cela. Elle était plus que son complice. C'est elle qui a organisé cette supercherie. Une chose est sûre, Dieu n'aime pas la tromperie. Peu importe si on essaie d'évaluer les motifs, est-ce qu'ils étaient purs ou pas, la tromperie en soi, Dieu n'aime pas cela. Dieu dit dans Psaume 5, versets 5 à 7, « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. » Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. Le mot ruse ici, c'est exactement le mot tromperie qui est utilisé dans le texte. Dans Psaume 34, 14 à 15, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Donc, tes paroles trompeuses sont données comme exemple du mal. Proverbe 26, 24. Par ses lèvres, celui qui a de la haine se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Donc, user de tromperie dévoile la haine, ou on pourrait dire un manque d'amour, un mépris pour la personne qui est trompée, un déshonneur, un manque de respect. Ésaïe 53, verset 9. Ésaïe 53 qui parle de la mort de notre Seigneur Jésus. Il prophétise la mort de Jésus. Il nous dit, verset 9, « On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence, qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. » C'est encore une fois le même mot, la tromperie, la fausseté. Non seulement Rebecca ici a utilisé la tromperie, le mensonge, mais elle l'a fait contre son propre mari. Elle a ridiculisé son mari dans cette situation. Elle n'a eu pour lui aucun respect. On vient de lire l'histoire d'Abraham et de Sarah. On s'imaginerait mal Sarah faire une telle chose à Abraham. Elle appelait son mari son Seigneur. Un grand respect qu'elle avait pour Abraham. Mais ici, on voit le contraste qui est frappant, là. Rebecca trompe son propre mari. Et elle a aussi trompé son fils Ésaü en faisant cela. Même elle a été prête à subir la malédiction de Dieu. Elle dit que la malédiction retombe sur moi si jamais Isaac s'aperçoit de la supercherie et qu'il te maudit au lieu de te bénir. Que ça retombe sur moi. Waouh, elle ne savait pas ce qu'elle disait, là. Mais ça montre qu'elle savait que c'était mal. Qu'elle savait que cette action-là méritait une malédiction. Elle était consciente et elle l'a fait quand même. Son désir que Jacob soit béni était peut-être louable, on ne le sait pas, mais ici, de toute évidence, elle n'a pas utilisé les réflexes qu'elle avait eus lorsqu'elle était enceinte, d'aller consulter l'Éternel, de se confier en lui. Elle a décidé d'intervenir elle-même. C'est comme si Dieu avait perdu le contrôle. Elle dit, « Moi, je vais réchapper l'histoire. » Ça ne se peut pas que ce soit Ésaü qui soit béni. Là. Pourtant, elle se trompait. Et même si elle avait laissé aller les choses, la bénédiction qu'Isaac donnait à Ésaü n'incluait pas toute la bénédiction d'avoir une descendance nombreuse et de posséder le pays. Mais peu importe, elle ne s'est pas confiée dans l'Éternel. Elle n'a pas agi en ayant la foi que Dieu pouvait intervenir. Puis à cause de cette tromperie, Jacob a dû fuir dans l'Est. Donc, son fils qu'elle aimait a dû partir et elle ne l'a jamais revu. Lorsque Jacob est revenu, elle était décédée. Donc, elle a payé cher, elle aussi. Mais même si c'est Rebecca qui a tout orchestré, on voit l'attitude de Jacob qui n'a pas été meilleure. Il l'a fait, là. Et même si sa mère lui a ordonné, il savait très bien que c'était mal de faire cela, et il l'a fait. Il savait, lui aussi, qu'il pouvait s'attirer la malédiction. Il a menti effrontément à son père. Il a volé l'identité de son frère. Il a même été jusqu'à blasphémer contre Dieu. Lorsqu'il est arrivé rapidement avec le mets et que son père Isaac lui dit « Wow, t'as fait ça vite? » Il dit « Mais c'est parce que ton Dieu a envoyé le gibier devant moi. » Il a même impliqué Dieu dans l'histoire, dans le mensonge. Il s'est même approché de son père et lui a donné un baiser. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui a trahi quelqu'un? Judas qui a trahi, qui a livré Jésus en lui donnant un baiser. Et lui aussi a dû quitter, il n'a jamais revu son père. La relation a été brisée. Et Dieu n'a pas laissé ce péché être commis sans qu'il y ait des conséquences. Ça, c'est frappant aussi. On va le voir dans les prochaines semaines lorsqu'on lit la suite de l'histoire chez Jacob. Comme Jacob a trompé, il a été le grand imposteur, il a été trompé. Et ça l'a vraiment humilié. Il devait épouser Rachel. Il a été trompé la nuit de ses noces. Et son beau-père lui a donné Léa à la place. Là, il se réveille, il n'a pas marié la bonne épouse. Là, il a été drôlement trompé. Et plus tard, même lorsqu'il était rendu à un âge avancé, ses fils l'ont trompé et ont monté toute une supercherie, à peu près dans le même genre que celui qu'il avait monté pour son père, en apportant des vêtements déchirés avec du sang, pour qu'il conclue que son fils Joseph avait été tué par une bête sauvage. Alors que ce n'était pas vrai. Il avait été vendu à des marchands d'esclaves pour aller en Égypte. Donc Jacob a subi les conséquences de son péché. Son péché l'a rattrapé. Mais comment Jacob a-t-il pu faire une chose pareille, s'abaisser à trahir son père, son frère? Lui, le fils d'Abraham, le fils d'Isaac, pourtant lui qui avait grandi dans une famille qui servait Dieu, une famille de foi, est-ce que lui-même ne craignait pas Dieu? Bien, pour Jacob, on voit ici qu'il n'avait pas encore fait de Dieu son Dieu. Il n'avait pas encore pris une décision personnelle. D'ailleurs, quand il parle à son père Isaac et qu'il explique que Dieu a mis le gibier devant lui rapidement, et c'est pour ça qu'il a pu revenir rapidement, il dit « Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu a mis le gibier devant moi. » Il parle de l'Éternel comme étant le Dieu de son père, pas comme étant son Dieu. Et on va voir au chapitre suivant, chapitre 28. Vous voulez voir les versets 20 et 21. Alors que Jacob est en route, puis là, il est devant l'inconnu, devant tous les dangers. Chapitre 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, et s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Donc, il ne l'était pas encore. « Et cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc, Jacob avait une certaine foi en Dieu, c'est sûr, puisqu'il recherchait la bénédiction de son père. Le droit d'aîné, c'est parce qu'il croyait que ça avait une certaine conséquence sur l'avenir. Il croyait qu'il y avait un Dieu. Il croyait à un Dieu qui pouvait pourvoir. Mais il n'avait jamais pris une décision de faire de ce Dieu-là son Dieu à lui. Ésaü aussi avait une certaine foi, parce que lui aussi, il a été grandement attristé. On dit qu'il a poussé un cri amer, il a sangloté, ça veut dire qu'il a éclaté en sanglots, voyant qu'il avait manqué la bénédiction de son père. Ça montre qu'il croyait à la puissance de la prière et à la bénédiction. Il croyait à la puissance de Dieu, mais lui non plus n'avait pas une foi qui sauve. Il n'avait pas, lui non plus, fait de l'Éternel son Dieu. Et lui, malheureusement, il n'était pas appelé par Dieu pour se convertir. Et on voit dans la suite qu'il s'enfonce dans le mal. Et déjà ici, on voit qu'il a fait un vœu en disant, « Si Dieu, lorsque mon père sera décédé, je tuerai mon frère. » Il a planifié de tuer son frère. Il a même parlé à d'autres de son plan, parce que d'autres sont allés dévoiler son plan à sa mère Rebecca. Donc, il a méprisé son frère. Et il s'est fixé des limites, là, mais les limites étaient là seulement parce que son père était encore vivant. Une fois que son père allait être mort, il n'y aurait plus de limites à sa haine. Il a sombré dans le mal. Dieu n'était pas son Dieu. Mais ce qui ressort dans tout ce chapitre-là, même si ça adresse un portrait très négatif de quatre personnages ici, on dirait que tout est sombre, mais on voit quand même la souveraineté de Dieu là-dedans. Dieu permet que son plan se déroule et s'accomplisse, malgré tout. Malgré la méchanceté des hommes, Dieu accomplit son plan. Dieu, dans sa souveraineté, peut même utiliser le mal pour accomplir ce qu'il a annoncé. Il peut même utiliser le mal commis par les hommes. C'est ce que plus tard le fils de Jacob comprendra, Joseph, lorsqu'il est vendu par ses frères en Égypte, qu'il est fait prisonnier, il a la vie dure. Et le jour où il retrouve ses frères, il leur dit, « J'ai compris cela, j'ai compris que vous m'avez fait un grand mal, mais c'était la volonté de Dieu. » Il dit au chapitre 50, verset 20, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Donc, selon son plan, Dieu a finalement béni Jacob. Et il a béni Jacob pour former sa descendance, le peuple d'Israël. Il a aussi béni Ésaü pour lui donner une descendance nombreuse, une terre, la terre d'Édom, dans la montagne de Séir. Une terre à part de son frère. Oui, il allait être soumis à son frère, mais parce qu'il vivait en nomade et par l'épée, il pouvait échapper à son joug. Et c'est exactement ce qui est arrivé lorsqu'on lit l'histoire d'Ésaü et de ses descendants. Donc Dieu a pris soin de lui quand même. Il n'a pas été détruit par Israël. Donc Dieu accomplit sa volonté, mais ça n'enlève pas la responsabilité individuelle que nous avons et les conséquences du péché, les conséquences de nos mauvais choix. Et qu'on le veuille ou non, en tant que parents, nous sommes des modèles pour nos enfants. Nous sommes soit de bons modèles, soit de mauvais modèles, mais nous sommes regardés, imités. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite dans les dernières années pour connaître au Canada la raison du décrochage, non pas le décrochage scolaire, mais le décrochage de l'Église locale. Pourquoi les jeunes, lorsqu'ils atteignent un certain âge, quittent l'Église? Parce qu'il y a eu un phénomène où il y a beaucoup, un grand pourcentage de jeunes qui ont quitté nos églises évangéliques de toute dénomination. Il y a plusieurs facteurs qui ont été soulevés en regardant tous les cas, les statistiques qui ont été faites et en passant beaucoup d'entrevues, de sondages. Certains jeunes ont avoué n'avoir jamais cru. Bon, mais c'est clair. Ici, c'est évident qu'Ésaü, en s'enfonçant dans le mal comme cela, n'était pas destiné à croire. Et si tu n'as pas une véritable foi, tu ne pourras pas persévérer toute ta vie dans l'Église. Mais dans d'autres situations, on voit que l'Église a été défaillante dans le soin des jeunes. Par exemple, dans certaines églises, il n'y a pas de groupe de jeunesse. Il n'y a pas d'activité. Après la jeunesse, lorsqu'un jeune quitte la jeunesse, il est laissé à lui-même, il tombe dans le vide. Il n'y a pas de suivi qui est fait. Il n'y a pas d'intégration progressive à servir dans l'Église. Il n'y a pas d'effort d'envoyer des jeunes dans les camps ou d'organiser des camps de jeunes, des endroits où ils peuvent servir. Il n'y a pas de mission à court terme d'organiser. Il n'y a pas d'aide, d'invitation à ce que les jeunes puissent servir, aider dans les ministères de l'Église. Il n'y a pas de coaching individuel. Lorsqu'un jeune n'a pas un coach à qui il peut se confier, qui prend du temps pour lui, c'est une autre cause qui va faire qu'un jeune peut abandonner l'Église. Mais ce qui a été frappant, c'est que le point principal qui ressort au-dessus de tout cela, c'est la vie chrétienne à la maison, l'influence des parents. Ça passe avant l'influence et l'enseignement de l'Église. Ce qui réunit le plus haut pourcentage, c'est le contexte familial où les parents n'ont pas vécu une vie chrétienne à la maison, où les parents n'ont pas fait preuve d'un intérêt sincère pour lire la Bible, pour prier, pour parler de Dieu, pour le louer à la maison. Le seul moment où ça se faisait, c'était à l'Église. Et ces jeunes-là, il y a un gros pourcentage qui avouent que ça a contribué. Lorsqu'on a deux vies différentes, lorsqu'on a des compartiments dans notre cerveau, lorsqu'on arrive à l'Église et qu'on adopte un comportement, mais que pendant le reste de la semaine, on a un long comportement et on vit comme si il n'y avait pas de différence entre nous et un non-chrétien. Les enfants le voient, cela. Et qu'est-ce qu'ils vont en déduire? Qu'on soit sincère ou non comme parents, les enfants vont en déduire qu'il y a comme une supercherie ici, là. Il y a comme une mise en scène. C'est un peu comme du théâtre. On joue à être un chrétien lorsqu'on va à l'Église. Et le reste de la semaine, on est comme tout le monde. Les enfants peuvent conclure qu'on est hypocrite dans notre démarche, qu'on n'est pas sincère. Et dans le fond, eux, ils nous suivent parce que c'est la foi de papa et maman. Mais le jour où ils sont confrontés eux-mêmes à prendre une décision face à un choix qu'ils doivent faire, ils ne vont pas nécessairement suivre la foi de papa et maman si c'est juste une pièce de théâtre. Pourquoi plus cela que d'autres choses? Et même si un jeune peut avoir une foi sincère, qu'il a été sauvé, il peut décider de quitter l'Église par la mauvaise influence de ses parents. Et aller dans le monde. Surtout lorsque les épreuves arrivent, les tentations. Les enfants imitent leurs parents. Et c'est pour ça que Dieu utilise cette image-là lorsqu'il se présente à nous comme un père. Et Dieu dit, « Imitez-moi, comme un enfant imite son père. » Il dit dans Éphésiens 5, 1 et 2, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Parce que les enfants adoptent de manière naturelle, s'ils ne prennent pas un temps pour se repentir et se laisser diriger par la Bible, ils vont adopter de manière naturelle les valeurs familiales, les valeurs de leurs parents. Si pour les parents, si pour le père ou pour la mère, ce qui est le plus important un soir de semaine, c'est le divertissement, bien, c'est ce qu'il enseigne à ses enfants. Ce qui est le plus important, c'est le divertissement. Et si un frère dans l'église a besoin de toi, dis-lui d'attendre au samedi ou au dimanche. Si la valeur familiale, c'est l'argent, qu'on doit tout faire pour ne pas perdre un dollar et qu'on doit tout faire pour en gagner, et que si une occasion se présente qu'on peut gagner plus, on doit absolument la saisir, bien, c'est cette valeur-là qu'on transmet à nos enfants. Si dans la valeur familiale, c'est tolérer la tromperie, le vol, ça va être toléré dans la vie des enfants plus tard aussi. Si on tolère le mépris, la haine, les querelles, et même les querelles dans le couple, le refus de pardonner, c'est ce qu'on transmet à nos enfants.
C'est pas trop tard pour influencer notre influence dure. Et ce qui va avoir le plus d'impact dans notre influence pour nos enfants, c'est notre humilité, notre capacité à se repentir et à avouer nos torts. Avouer qu'une certaine valeur avait pris le dessus sur Dieu. Parce qu'on est prêt à l'avouer à nos enfants, cela. Ça va avoir une grande influence. Il n'est jamais trop tard pour s'humilier. Et même demander pardon. Les enfants ne sont pas chrétiens à cause de la foi de leurs parents. On le sait, mais parfois, sans y penser, c'est ce qu'on croit. Automatiquement, nos enfants seront chrétiens. Les enfants n'auront pas la foi en Jésus-Christ pour être sauvés de leur mort spirituelle simplement parce qu'ils grandissent dans un foyer chrétien. Ça doit leur être présenté. L'Évangile doit leur être présenté individuellement. Mais comme parents, on peut présenter la foi, mais détruire ce témoignage en ne vivant pas nous-mêmes par la foi. Si l'Évangile ne semble rien changer dans notre vie, nos enfants n'y croiront pas non plus. Notre Dieu ne sera pas leur Dieu. On ne transférera pas notre confiance en Dieu à nos enfants. Et en tant que fille ou fils, nous ne sommes pas tous parents, mais nous sommes tous fils ou filles. Est-ce qu'il te vient parfois un doute? Est-ce qu'il t'est déjà venu un doute à l'esprit que peut-être que tu crois seulement parce que tes parents ont cru? Est-ce que tu es sûr, même si tu as passé par les eaux du baptême, même si tu fréquentes l'Église depuis de nombreuses années, est-ce que tu es sûr que tu as pris une décision personnelle? La foi de tes parents ne peut pas te sauver. Es-tu convaincu que ta foi est sincère? Est-ce que Dieu est ton Dieu? Il n'y a qu'un seul moyen pour que l'Éternel soit ton Dieu, c'est que ce soit une décision personnelle et sincère. On peut jouer la comédie toute notre vie, mais quand on va se présenter devant Dieu, on ne peut pas jouer la comédie. Ce n'est pas par le respect de la foi de tes parents que tu peux te sauver, ce n'est pas par ton appartenance à l'Église locale, ce n'est même pas par le baptême que tu peux te sauver. Ce n'est pas par le respect d'une liste de règlements qu'il y avait à la maison. C'est seulement en ayant la foi personnelle en Jésus-Christ. La foi que Jésus te sauve de tes péchés à toi. Et que lorsqu'il était sur la croix, il a porté tes péchés à toi. C'est cette foi-là qui peut te sauver. Et tu peux avoir une foi sincère même si la foi de tes parents défaille. C'est toi que Dieu appelle, qu'il veut sauver. Si tu te rends compte que tu es en train de reproduire peut-être le péché de tes parents, on entend parfois cela, là, tel père, tel fils, et que ce que les parents ont commis comme péché, c'est inévitable qu'on va le commettre nous aussi. Mais c'est faux. On peut peut-être avoir une tendance naturelle, un même penchant, mais c'est faux qu'on doit absolument reproduire le même péché que nos parents. Imitons Dieu, qui est le Père, qui est le Père parfait. Et on peut briser ce cycle par l'humilité, par la repentance. Parce que Dieu reste souverain. mais cette souveraineté n'enlève pas la responsabilité des parents. Soyons des imitateurs de Dieu, afin que ceux qui nous regardent puissent nous imiter. Philippiens 3, 17 à 21 dit « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Et leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen.